ma mère. Je le sentais, sa présence imprégnait cette maison. Je devinais sa patte derrière chaque meuble, derrière chaque élément de décoration. Ici, c'était aussi chez elle. Un craquement me fit sursauter. Je me retournai et tombai nez à nez avec elle. Ou plutôt, avec son portrait accroché sur le mur, de l'autre côté du salon. Je me dirigeai vers l'espace canapé-bibliothèque où étaient affichées d'autres photos. Plus je me rapprochais, plus je comprenais l'histoire qui m'avait échappé jusqu'ici. En une quinzaine de clichés, se dessinait une sorte de rétrospective de la vie parallèle menée par Francis et Annabelle pendant des années. Ensemble, ils avaient fait le tour du monde. Au hasard des photos, je reconnus des lieux emblématiques. Le désert africain, Vienne sous la neige, le tramway de Lisbonne, les chutes de Gullfoss en Islande, les cyprès de la campagne toscane, le château écossais d'Island Donan, le New York d'avant la chute des tours. Plus que les lieux, les sourires et la sérénité de leurs visages me donnèrent la chair de poule. Ma mère et Francis étaient amoureux. Pendant des décennies, ils avaient mené une histoire d'amour totale, mais clandestine. Une relation insoupçonnable et durable, à l'abri du regard du monde. Mais pourquoi ? Pourquoi n'avaient-ils jamais officialisé leur histoire ? Au fond de moi, je connaissais la réponse. Ou plutôt, je la devinais. Elle était complexe et tenait à leur personnalité singulière. Annabelle et Francis étaient deux caractères rudes et tranchés, qui avaient dû trouver un réconfort mutuel en se bâtissant une bulle dont ils étaient les seuls architectes. Deux individualités fortes qui s'étaient toujours construites contre le monde, contre sa médiocrité, contre l'enfer des autres dont ils n'avaient eu de cesse de s'émanciper. La belle et la bête. Deux tempéraments hors du commun qui méprisaient les convenances, les codes, le mariage. Je m'aperçus que je pleurais. Sans doute parce que sur les photos où ma mère souriait, je retrouvais cette autre personne que j'avais connue dans mon enfance et dont la douceur ressurgissait parfois sous le masque glacé de l'Autrichienne. Je n'étais pas fou. Je n'avais pas rêvé tout ça. Cette autre femme existait bel et bien, et j'en tenais aujourd'hui la preuve. J'essuyais mes larmes, mais elles continuaient à couler. J'étais ému par cette double vie, par cette histoire d'amour singulière qui n'appartenait qu'à eux. Le véritable amour n'était-il pas au fond, débarrassé de toutes les convenances ? Cet amour chimiquement pur, Francis et ma mère l'avaient éprouvé, alors que je m'étais contenté de le rêver ou de le fantasmer à travers les livres. Une dernière image accrochée au mur retint mon attention. C'était un petit format de couleur sépia, représentant une très vieille photo de classe prise sur la place d'un village. Une inscription à la plume mentionnait « Montaldiccio, 12 octobre 1954 ». Assis sur trois rangées de bancs, les gamins ont une dizaine d'années. Ils ont tous les cheveux noirs comme l'ébène, à l'exception d'une petite fille blonde aux yeux clairs, légèrement à l'écart. Tous les enfants regardent l'objectif, sauf un petit gars à la bouille ronde, mais fermé. Au moment où le photographe appuie sur son déclencheur, Francis tourne la tête et n'a d'yeux que pour l'Autrichienne, la plus belle de l'école. Toute leur histoire est déjà inscrite dans cette photo. Tout s'était noué là, pendant l'enfance, dans ce village d'Italie qui les avait vus grandir. 4. Un escalier suspendu en bois brut montait vers les chambres. D'un coup d'œil, j'embrassai la distribution du premier étage. Une immense suite de maîtres et ses dépendances, bureaux, dressing, salle de hammam. Encore plus qu'au rez-de-chaussée, l'omniprésence des surfaces vitrées effaçait les frontières entre l'intérieur et l'extérieur. Le cadre était exceptionnel. On sentait la forêt toute proche, et le ruissellement de la rivière se mêlait au bruit de la pluie. Une terrasse vitrée permettait de déambuler jusqu'à une piscine couverte qui ouvrait sur le ciel, et sur un jardin suspendu agrémenté de glycines, de mimosas et de cerisiers du Japon. Un instant, je faillis rebrousser chemin, de peur de ce que je pouvais découvrir. Mais l'heure n'était plus aux atermoiements. Je poussai la porte pivotante de la chambre et révélai un territoire encore plus intime. Des photos à nouveau, mais de moi cette fois, à tous les âges de l'enfance. L'impression ne m'avait pas quitté de la journée, de plus en plus prégnante au fur et à mesure que j'avançais dans mes investigations. En enquêtant sur Vinca, c'est d'abord sur moi-même que j'enquêtais. L'image la plus ancienne était un cliché en noir et blanc. Maternité Jeanne d'Arc, 8 octobre 1974, naissance de T. Un selfie avant l'heure. C'est Francis qui tient l'appareil. Il enlace ma mère qui porte le bébé dont elle vient d'accoucher. Et ce bébé, c'est moi. Stupeur et évidence. La vérité me sautait au visage avec violence. Une vague d'émotion me submergea. En refluant, son écume cathartique me laissa groggy. Tout s'éclairait, tout se remettait à sa place, mais dans une douleur cruelle. Mes yeux restaient obstinément fixés sur la photo. Je regardais Francis, et j'avais l'impression de me regarder dans un miroir. Comment avais-je pu être aveugle aussi longtemps ? Je comprenais tout à présent. Pourquoi je ne m'étais jamais senti le fils de Richard ? Pourquoi j'avais toujours considéré Maxime comme un frère ? Pourquoi un instinct animal me faisait monter au front chaque fois que Francis était attaqué ? Assailli de sentiments contraires, je m'assis sur le rebord du lit pour essuyer mes larmes. Savoir que j'étais le fils de Francis me délivrait d'un poids. Mais savoir que je ne pourrais plus lui parler me laissait mille regrets. Une question commença à me hanter. Richard était-il au courant de ce secret de famille et de la double vie de sa femme ? Sans doute, mais ce n'était pas certain. Peut-être avait-il fait l'autruche pendant des années, sans comprendre véritablement pourquoi Annabelle tolérait ses innombrables incartades. Je me levai pour quitter la chambre, mais je revins sur mes pas avec l'intention de décrocher la photo de la maternité. J'avais besoin de l'emporter, comme une preuve de mes origines. En soulevant le cadre, je découvris un petit coffre-fort encastré dans le mur. Un pavé numérique invitait à saisir 6 chiffres. Ma date de naissance. Je n'y croyais pas une seconde, mais je ne pus m'empêcher d'essayer. Parfois, l'évidence. La porte du coffre s'ouvrit dans un déclic. L'armoire d'acier n'était pas très profonde. J'y plongeai la main pour en ressortir un flingue. Le fameux pétard dont Francis n'avait pas eu le temps de se servir lorsqu'on l'avait attaqué. Dans un petit sac de toile, je trouvai aussi 10 de cartouches de calibre 38. Les armes ne m'avaient jamais fasciné. Généralement, elles ne provoquaient chez moi que de la répulsion. Mais pour la documentation de mes romans, j'avais été forcé de m'y intéresser. Je sous-pesai le revolver. Compact et lourd, il ressemblait à un vieux Smith & Wesson, modèle 36. Le fameux Chief Special, avec sa crosse en bois et sa carcasse en acier. Quel était le sens de la présence de ce flingue derrière cette photo ? Que le bonheur et l'amour véritable devaient être protégés par tous les moyens ? Que leur conquête avait un prix qui pouvait être celui du sang et des larmes ? J'introduisis 5 cartouches pour remplir le barillet et je le glissai dans ma ceinture. Je n'étais pas certain de savoir m'en servir, mais j'étais certain que désormais, le danger était partout. Parce que quelqu'un s'était mis en tête d'éliminer tous ceux qu'il estimait responsables de la mort de Vinca, et que j'étais sûrement le prochain sur sa liste. J'arrivai en bas de l'escalier quand mon téléphone sonna. J'hésitais à décrocher. Ce n'est jamais bon signe lorsque quelqu'un vous appelle en numéro masqué à 3 heures du matin. Finalement, je me décidai à répondre. C'était la police. Le divisionnaire Vincent de Bruyne qui m'appelait du commissariat d'Antibes pour me prévenir que ma mère avait été retrouvée morte et que mon père s'accusait de l'avoir tuée.